France Culture, Quentin l'a fait.
6h40, les enjeux internationaux et on l'appelle le chasseur de dictateurs. Nous recevons aujourd'hui le célèbre avocat des droits humains, Reid Brody, qui dévoile dans son dernier ouvrage les coulisses d'une affaire historique, la traque longue de 18 ans de Hissen Habré, ancien directeur dictateur au Tchad. Grâce à la détermination sans faille de quelques survivants et d'une équipe d'enquêteurs internationaux, Hissen Habré sera finalement jugé entre 2015 et 2016 pour les crimes et tortures contre des dizaines de milliers de personnes. Dans ce récit, Reid Brody nous livre les difficultés, les défaites, mais aussi les espoirs et les victoires qui ont permis pour la première fois de juger et de condamner un dictateur devant une cour africaine. Alors pourquoi cette fois-ci la justice internationale a-t-elle fonctionné? Pour en parler, je le disais, je reçois Reid Brody. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, ancien procureur spécialisé en crimes de guerre, membre de la commission internationale de juristes et l'auteur donc de cet ouvrage intitulé « La traque d'Hissen Habré ». Juger un dictateur dans un monde d'impunité, cela a paru aux éditions Cartala. Pour commencer peut-être, dites-nous, rappelez-nous qui est Hissen Habré.
Bon, Hissen Habré était le dictateur du Tchad de 1982 à 1990. Il est porté au pouvoir par les États-Unis de Ronald Reagan, qui le voyait comme un bouloir contre Muammar Kadhafi, qui avait des visées expansionnistes sur le Tchad. Il est vite aussi soutenu par la France de François Mitterrand. Hissen Habré est accusé et finalement, comme vous avez dit, condamné pour des milliers d'assassinats, tortures systématiques, des vagues de pogroms ethniques, violences sexuelles. Il avait mis en place une dictature, notamment il avait créé la Direction de Documentation et Sécurité, la DDS, qui était la police politique. Avec un collègue, nous sommes tombés sur les archives de cette police politique et rien que dans ces archives, il y avait les noms de 1208 personnes décédées en détention, de plus de 12 000 victimes des violations des droits humains. Il y avait aussi dans ces documents des notes manuscrites par la main de Hissen Habré. On voyait, il y avait des listes quotidiennes des personnes mortes. Il y avait aussi des documents qui mettaient en cause la DGSE et la CIA.
On va y revenir donc des preuves, des documents accablants. Mais avant cela, Reid Brody, comment est-ce que vous-même êtes venu à travailler sur cette affaire?
Alors moi, j'étais à Human Rights Watch et j'ai participé à la création de la Cour pénale internationale à Rome en 1998. Et quelques mois après cette conférence, il y a l'arrestation du général Pinochet, donc un général chilien arrêté à Londres sous un mandat d'un juge espagnol pour des crimes commis 25 ans auparavant au Chili.
On est en 1998.
Exactement. Et j'ai participé aux audiences. Pinochet, il a contesté son arrestation devant la chambre, devant les juridictions britanniques. Et quand les chambres des Lords, donc la plus haute juridiction à l'époque, a dit que Pinochet pouvait être arrêté n'importe où dans le monde, malgré son statut d'ancien chef d'État, nous sommes rendus compte qu'on avait un instrument en la justice internationale d'amener en justice des tortionnaires, des tyrans qui semblaient hors de l'atteinte de la justice. Et c'est que j'étais approché par la présidente de l'association tchadienne des droits humains, Delphine Charib, qui m'a dit bah, « Pourquoi pas en Afrique? Nous, on a quelqu'un qui a tué plus que Pinochet. » Hissen Habré, il avait été démis, enfin renversé par un coup d'État en 90. Il s'était réfugié au Sénégal. Alors nous, au Sénégal, c'est un pays qui a ratifié tous les traités, etc. Donc, nous, on pensait que si le Sénégal pouvait s'approprier de cette justice internationale, on aura vraiment universalisé cette justice.
Le fait qu'il soit au Sénégal rendait donc possible un jugement. Pour quel motif Hissen Habré avait-il poursuivi? Quel crime concret lui était-il reproché?
Alors, tout d'abord, on a porté plainte, on a créé une équipe au Tchad où il y avait les victimes et au Sénégal où il y avait donc Hissen Habré et on a porté plainte en 2000 pour crime de torture. parce que le Sénégal et le Tchad avaient ratifié la Convention contre la torture qui oblige un État dans lequel se trouve un présumé tortionnaire, soit de le juger, soit de l'extrader. Donc, tout d'abord, on a poursuivi devant les juridictions ordinaires sénégalaises pour torture. Par la suite, ça a beaucoup évalué, on pourrait peut-être en parler.
On en reparlera évidemment. Par ailleurs, vous l'avez dit un peu plus tôt, Reid Brody, Hissène Habré avait été porté au pouvoir, notamment par les États-Unis, en la personne de Ronald Reagan. Est-ce qu'à ce moment-là de la procédure, les États-Unis étaient une entrave à cette procédure ?
Non, en fait, ni les États-Unis ni la France n'ont jamais entravé la procédure. C'est vrai que les États-Unis avaient beaucoup à se reprocher. Les États-Unis, un peu à la différence de la France, n'ont pas beaucoup d'états d'âme. Ce serait pas la première fois que les États-Unis demandent la poursuite d'un dictateur qu'ils ont aidé à dans le pouvoir. Alors, on peut citer la Guatemala, l'Argentine, etc. Les temps changent. La France, par contre, avait plus de réticence. Même que si les États-Unis ont soutenu Hissène Habré de bout en bout, la France l'a lâché à un moment donné. Pas à cause de ces violations, de ces atrocités, mais parce que les États-Unis et le Tchad cachaient à la France le fait que les États-Unis entraînaient des Libyens capturés comme force contre Kadhafi.
Le procès s'est donc ouvert le 20 juillet 2015
Mon
à Dakar, votre anniversaire par ailleurs. Ce sont les témoignages, le fondement, la base de ce procès qui ont permis aussi d'avancer dans la procédure par la suite.
Voilà, en fait, ce procès, ce droit à la parole des victimes et au protagonisme de victimes. Je pense par exemple à Soliman Gengeng, un modeste fonctionnaire jeté en prison et pendant que les gens meuraient autour de lui, il a juré devant Dieu que s'il sortait vivant, il allait se battre pour la justice. Et à la sortie du prison, Soliman a créé l'association des victimes. Il a recopilé plus de 700 témoignages pour aller éventuellement pouvoir juger Hissène Habré. Quand les sbires d'Hissène Habré l'ont menacé de mort, il a pris le chemin de l'exil aux États-Unis, c'est Clément Abaifuta. Le fossoyeur dont la tâche en prison était de creuser des tombes et d'enterrer ses co-détenus. Donc ce sont des personnes, je peux aussi citer Jacqueline Moudena, l'avocate tchadienne des victimes, qui a failli être assassinée par un des sbires d'Hissène Habré resté au Tchad, et qui a finalement plaidé l'affaire avec les fragments de grenades dans ses jambes. Donc ce sont les témoignages des victimes, le courage, l'acharnement, la persévérance de ces personnes qui ont permis ce procès.
Mais qu'est-ce que ça raconte dans le fond, Reid Brody, ce que vous nous décrivez là? Dans le fond, les témoignages ont toujours plus de valeur que les documents, même que vous avez évoqués un peu plus tôt, même que ces preuves qui ont été mises en lumière par vous-même?
Enfin, les deux se corrobore. Évidemment, les documents sont des preuves
accablantes
et on les appelle le reine et le roi des preuves parce que des documents. Mais c'est les témoignages de Soliman et de Clément et des femmes violées, etc., qui persuadent, qui font le travail de mobilisation. Je me rappelle beaucoup de fois être en face des décideurs au Sénégal, en Belgique, à l'Union africaine, aux Nations unies. Et c'est le témoignage de Soliman qui regarde les yeux dans les yeux et qui vous dit, qui raconte cette histoire incroyable de la prison, de son serment devant Dieu et qui émeut les gens presque aux larmes et qui font en sorte que les décideurs acceptent de rendre justice.
Et qui redonne vie donc par le truchement du témoignage à ces atrocités. Vous soulignez, Reid Brody, dans votre ouvrage, l'importance, je vous cite, d'obtenir une justice pour les Africains en Afrique. Pourquoi était-ce important que ce procès, justement, se tienne au Sénégal ?
Parce que, d'abord, Hissène Habré était au Sénégal et On dit toujours, et c'est vrai d'ailleurs, que la justice internationale est à géométrie variable, mais que c'était toujours des pays européens qui jugent les anciennes colonies, des personnes des anciennes colonies.
Ici, pour la cour des dictateurs africains.
Voilà. Mais ici, c'est le Sénégal. Donc, c'est le seul, vous avez dit que c'est la seule fois qu'un dictateur soit jugé par un autre pays africain. C'est la seule fois au monde que les tribunaux d'un pays, le Sénégal, ont jugé l'ancien chef d'État d'un autre pays, le Tchad, pour les crimes des droits de l'homme. Ça s'est jamais produit ni en Europe ni aux États-Unis.
Au-delà de la peine de prison, il y a eu, il faut en parler, terminer par cela, les indemnisations des victimes. Le mois dernier, 33 ans après les faits, le Tchad a commencé à verser les indemnisations. Est-ce que la justice, désormais, est faite à vos yeux?
Pas tout à fait. Ces indemnisations qui continuent aujourd'hui, vous avez cité, c'est 1 500 € par personne. C'est le 10% de ce que les tribunaux avaient accordé. Mais je peux vous dire, je reçois même ce matin des SMS de gratitude des victimes qui perçoivent cet argent, que pour des gens très pauvres au Tchad, que ça représente un soulagement très important.
Et vous-même, quelles leçons tirez-vous sur le plan, j'allais dire, presque personnel de cette traque qui a duré des années, des décennies, même celle d'Issan Abré? Est-ce que ça vous a transformé? De quelle façon?
Ah, beaucoup. ça, j'ai dû, en fait, laisser place à mon ego beaucoup, justement pour que la parole des victimes soit plus importante.
Laisser place, c'est-à-dire mettre de côté, j'imagine.
Mettre de côté le chasseur-dictateur pour mettre en avant le récit des rescapés, mais c'est aussi l'acharnement, l'obstination, la ténacité. Nous nous sommes dit que nous n'allions jamais abandonner, que le Sénégal n'aura de répit que lorsqu'il aura jugé Issan Abré.
Merci beaucoup, Reid Brody, d'être venu ce matin au micro de France Culture. On était honorés de votre présence dans ce studio. Je rappelle que vous êtes avocat, ancien procureur spécialisé en crimes de guerre, membre de la Commission internationale de juristes. Et on recommande chaleureusement votre ouvrage, La traque d'Issan Abré, juger un dictateur dans un monde d'impunité. Cela a paru aux éditions Cartala. Il est 6h52.